Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir dans le débat du Club des Idées, attention, sujet explosif. L'hôpital français est-il miné par les lourdeurs administratives? C'est une petite musique qui revient beaucoup depuis le début de la crise sanitaire. Eh bien ce soir on en parle et on va aller au fond des choses, sans tabou comme à chaque fois. La bureaucratie est-elle un frein dans la capacité de réaction de notre système de santé? Aurait-on pu faire différemment? Gestion des malades, transfert des patients, sur les masques aussi, ou encore la vaccination? On en parle donc ce soir avec nos invités, notamment le professeur Michael Perromore. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes urologue à l'hôpital Cochin, auteur de « Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit » aux éditions Albin Michel. On en parle également avec Frédéric Bizard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes économiste de la santé et président de l'Institut de la Santé et professeur d'économie à l'ESCP. Et on en parle également avec Antoine Perrin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur général de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne du privé solidaire. Vous êtes ancien directeur d'agence régionale de santé, chirurgien ORL en hôpital public, et vous avez été directeur adjoint du cabinet de la ministre en charge de la Santé, Roselyne Bachelot. C'était en 2007. Alors tout d'abord, est-ce que vous êtes d'accord, Frédéric Bizard, avec cette formule qui est de dire « l'hôpital est malade de sa bureaucratie » ?
C'est un des éléments de la maladie, mais c'est certainement pas le seul responsable de la maladie de l'hôpital. Et je pense qu'il faut faire attention aux raccourcis. Quand on regarde les chiffres, par exemple, il y a un chiffre qui circule beaucoup, 34% du personnel hospitalier et du personnel administratif contre 25-26%, notamment en Allemagne. Ce qui s'explique très facilement, c'est les 35 heures qui a fait qu'on a remplacé pour garder un équilibre à des administratifs. On a embauché des administratifs, ce qui est plus facile que d'embaucher des soignants à former. Bon. Mais l'hôpital est surtout malade de sa non-transformation en profondeur dans un monde qui s'est considérablement transformé. L'hôpital, on va en reparler probablement, n'est surtout pas malade d'un manque de moyens, et il faut expliquer pourquoi. L'hôpital est malade de sa gouvernance, la gouvernance externe. Il n'y a aucune autonomie donnée à l'hôpital, malgré une loi qui a été faite, qui était censée lui en donner, et est malade de sa gouvernance en interne. Là, pour le coup, c'est la loi HPST qui a décidé qu'il n'y avait qu'un seul chef, et le seul chef, c'est le responsable administratif, ce qui fait que tout le personnel hospitalier soignant qui a la connaissance, qui a la compétence, est exclu en réalité de cette direction. Alors, dernier point, juste, l'hôpital est malade de son non-adéquation à son environnement extérieur. L'hôpital est entre des murs, alors que l'hôpital doit être intégré dans un territoire. Donc tout reste à faire pour guérir l'hôpital.
Alors il y a une question qui revient beaucoup quand on parle de l'hôpital et du système de santé français, pour faire simple, c'est la suradministration de la santé et son hypercentralisation. Tout remonte, dit-on, au ministère, le fameux ministère Avenue de Ségur, dont on parle beaucoup en ce moment, ce qui paralyserait l'efficacité. Alors, pour être tout à fait clair et précis, il y a quatre administrations centrales. La DGS, censée élaborer la politique de santé publique, la DGOS, responsable de la qualité des soins, la DSS, qui est la banque en quelque sorte du système, et la DRES, qui produit les statistiques. Et puis il y a les ARS, sur le terrain, les agences régionales de santé, auxquelles s'ajoutent d'autres strates, la PHP et ses 39 hôpitaux qui ont leur mot à dire, paraît-il, les groupes privés, les départements. Antoine Perrin, question simple, est-ce que c'est l'armée mexicaine?
Alors vous avez d'abord oublié la DGCS, la Direction Générale de la Cohésion Sociale. Il y en a une autre.
Il y en a d'autres encore.
Qui s'occupe de l'autonomie du secteur du handicap et des personnes âgées. Le monde est quand même complexe, mais d'abord je voudrais qu'on regarde ce que c'est qu'un hôpital. Un hôpital, c'est au moins 5 forces en présence. Ce sont les soignants, les médecins, ce sont les organisations syndicales qui défendent les intérêts des salariés, qui ne vont pas forcément dans le même sens que la dynamique des soignants, ce sont les administratifs, ce sont aussi les élus qui défendent parfois leur hôpital dans le territoire.
Donc il y a du corporatisme, c'est ce que vous dites.
Des forces en présence. Et puis il y en a un cinquième qui est arrivé depuis une trentaine d'années à peu près, c'est le représentant des personnes soignées, accompagnées, des usagers. Et donc ce monde est complexe, avec des intérêts parfois contradictoires, et donc c'est quand même très difficile.
Mais c'est ça qui paralyse aussi, quand on dit l'hôpital, en vérité, c'est la prise de décision dans le système de santé, et on va le mesurer à l'aune de cette crise sanitaire, avec des exemples. Vous allez voir, on vous a préparé plein de choses. Mais cette suradministration de la santé, c'est un problème aujourd'hui dans la prise de décision?
Alors oui, c'est un problème, et on a bien vu d'ailleurs que pendant la crise, le fait qu'on ne puisse plus utiliser la chaîne de décision descendante avec le système des autorisations, des contrôles, etc., a permis de libérer un peu le carcan. Un moment, en fin mars, l'ARS Île-de-France, comme l'ARS Grand Est, comme les ARS, ont convoqué les représentants des fédérations un vendredi et leur ont dit « lundi, il faut doubler les lits de réanimation ». en dehors de tout texte,
oui.
en dehors de toute réglementation.
Oui. Et ça fonctionne.
Le lundi, les lits de réanimation avaient été doublés.
Bien, donc il y a de l'agilité quand même.
Donc il y a de l'agilité, absolument.
Il y a de la réactivité. Michael Perromore.
Tout ce que j'entends dire là est tout à fait juste. Le mal de l'hôpital, ce n'est pas uniquement la suradministration, bien que ce soit effectivement un gros problème. Il y a des castes, il y a des corporatismes au sein des médecins, au sein des soignants. Il y a une fonction publique avec ses grilles de salaire, il y a des rigidités dans tous les sens. Et moi, ce que je peux dire, pour ajouter à ce que viennent de dire mes voisins, c'est que j'ai vu en 20 ans l'hôpital se complexifier énormément parce qu'on a toujours rajouté des strates sans jamais retirer les précédentes. Et je crois que l'hôpital est à l'image du pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'hôpital qui souffre de ça, mais le pays, la France, souffre de ça parce que chaque fois qu'on rajoute une instance, on oublie d'enlever la précédente.
Oui. Sauf qu'on dit toujours que l'hôpital, c'est vraiment l'administration la plus suradministrée.
C'est possible. Ce qu'a dit monsieur est très juste, c'est-à-dire que pendant la première vague de l'épidémie, les administratifs étaient bouche bée, pour une fois.
Oui.
Les soignants ont repris les manettes. Et ça a été, c'est pour ça que ça a été très, très rapide. Et moi, j'ai vu se faire en quelques jours des choses qu'on aurait en temps normal mis des mois ou des années à faire.
Bien. Alors, on va rentrer dans le détail des éléments avec des exemples tout à fait précis. 19h28, on se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Avec la suite du débat des clubs des idées consacré ce soir à l'hôpital. L'hôpital français est-il miné par les lourdeurs administratives? On parlait du poids de la fonction publique dans l'administration de notre système de santé. Écoutez à ce propos ce que disait sur notre antenne il y a peu Sylvain Faure, ancien conseiller et ancienne plume d'Emmanuel Macron.
Nous avons aujourd'hui une administration qui n'hésite pas à jouer contre le politique. On a confié aujourd'hui à l'administration notre vie, notre mort, nos enfants, notre éducation. L'administration française fait tout du sol au plafond. Est-ce que l'État français, l'administration française, est vraiment fondée à prendre en charge et en main la totalité de notre existence? C'est non.
Antoine Perrin, vous êtes directeur de la FEAP, ancien directeur adjoint au cabinet de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot. Vous connaissez le système de l'intérieur. C'est vrai ça? Ce sont les hauts fonctionnaires qui ont pris la main?
Oui, globalement, c'est aux fonctionnaires qui ont pris la main, mais qui essayent, bon an mal an, malgré la difficulté, de se relier au terrain, de consulter, de prendre en compte les avis des fédérations. Je crois vraiment qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour le faire, mais le système est effectivement très très lourd.
Oui, je voudrais prendre des exemples tout à fait concrets. On va faire les choses dans l'ordre, pour parler de cette crise sanitaire et des lourdeurs administratives. Les masques. Olivier Véran, ministre
J'insiste.
De la Santé.
L'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile.
Je souhaite que dans les prochaines semaines, on rende obligatoire le masque dans tous les lieux publics clos.
Réaction Frédéric Bizard.
C'est que vous savez qu'il n'y a pas de politique de santé publique en France. Vous savez, il y a une politique du soin. En fait, on ne gère que des professionnels de santé, des établissements hospitaliers. Mais vous n'avez absolument aucune réflexion de politique de santé publique. Donc, cette menace de crise sanitaire que l'on connaît depuis une dizaine d'années n'a pas été anticipée parce qu'il n'y a pas de système de pensée de notre santé publique.
Pardon, mais ce qu'on a appris par la suite sur la question des masques, c'est qu'on n'était pas en capacité d'en fournir à tout le monde. Donc, on a préféré dire aux Français que ça n'était pas utile avant de faire marche arrière.
Oui.
Alors que le pragmatisme aurait été de dire, allez, couvrez-vous, mettez une écharpe, mettez ce que vous voulez, mais essayez de vous couvrir le visage.
Oui, parce qu'il n'y a pas dans le système une agence de réflexion digne de ce nom, qui est capable de conseiller en amont, avec les bons conseils, les pouvoirs publics.
C'est pas la peur du risque aussi?
Alors, oui, il y a ça, mais attention, parce qu'on fait du bouc émissaire la haute administration, mais si la haute administration a tous les pouvoirs, a toutes les manettes aujourd'hui, c'est bien parce que le politique lui a donné, notamment à travers cette évolution depuis 20 ans vers ces agences régionales de santé qui ont strictement tout pouvoir sur le système, d'accord ? Avec un vrai pouvoir autocratique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contre-pouvoir. Vous n'avez strictement aucun contre-pouvoir, ni des collectivités territoriales, ni des professionnels de santé. Ça, ce ne sont pas les hauts fonctionnaires qui ont fait ça, même s'ils ont pu l'inciter. C'est quand même le politique. Vous avez parfaitement raison de dire que le politique ne cesse en fait de renforcer le pouvoir. L'intendance, comme l'appelait De Gaulle, a le pouvoir en santé. Donc le politique ne fait que communiquer. Donc ça, c'est une réalité dont je pense il faut sortir. Juste un dernier point.
Oui.
Il faut être optimiste. D'abord, ça reste un formidable outil, hein, l'hôpital public et l'hôpital en général. On le voit pendant la crise, parce que s'il y a une chose qui tient, c'est l'hôpital. Mais ce qui est quand même très étonnant, c'est quand on regarde depuis un an la chose. Alors qu'on a été capable, par exemple, de doubler le nombre de lits de réanimation il y a un an. Oui. On savait que cette crise n'était pas finie et on sait qu'elle n'est encore pas finie. Eh bien, on voit qu'il y a eu une incapacité de l'administration d'avoir suffisamment de fluidité et d'anticipation pour faire en sorte qu'aujourd'hui, nous ne soyons pas saturés avec 5000 personnes en réanimation. Donc ça, ça montre quand même que...
Ça, c'est d'ailleurs une question, Michael Perromort, professeur urologue à l'hôpital Cochin, qui revient régulièrement. Comment se fait-il que depuis un an, on n'a pas été en capacité d'augmenter notre offre en lit de réanimation? Alors, j'entends l'idée qu'il faut des années et des années pour former des réanimateurs. Mais là, par exemple, face à l'urgence, j'ai appris qu'en quelques semaines, on va former 1000 infirmiers ou infirmières en 3 jours seulement de formation pour venir épauler les réanimateurs. Pourquoi ne l'avons-nous pas fait plus tôt?
C'est la grande question. Je pense que c'est la grande faille dans la gestion de cette épidémie, c'est de ne même pas avoir essayé d'élargir les capacités d'accueil. Vraiment, c'est tout à fait pathétique, mais à mon humble avis, je ne suis pas dans les coulisses du pouvoir, mais à mon humble avis, ils n'y ont même pas pensé.
Oui.
C'est désolant.
Oui.
C'est désolant.
Et puis, il y a ce qui a été fait à l'hôpital depuis près de 20 ans. Hein. Les lits d'hospitalisation ont chuté de 21 000 lits qui ont été fermés depuis 2013. La France comptait 5 400 lits de réanimation fin 2019. Elle en compte sensiblement plus aujourd'hui, mais dans le même temps, le nombre de personnes âgées a fortement augmenté. Donc là aussi, on a été dans l'incapacité de proposer une offre en adéquation par rapport à l'évolution de sa situation et puis par rapport, depuis un an encore, à l'évolution du besoin, Antoine Perrin.
Oui, mais je ne suis pas certain que ce soit le nombre de lits qui compte. Moi, je ne suis pas choqué que le nombre de lits ait été diminué en France. Mmh. Ce qui compte, c'est la réactivité du système. A-t-on un système qui est et peut être réactif? Nous, on est le privé solidaire, les ESPIC, les établissements de santé privés d'intérêt collectif, c'est-à-dire on est service public, mais on est privé. Et donc, dans notre organisation, pour réagir sur ce que vous disiez sur l'hôpital public, nous n'avons pas toute la réglementation qui explique qu'un tel fait ci, le directeur fait ça, le médecin fait ça, etc. Nous n'avons pas cette réglementation et nous n'en voulons pas.
Oui.
Notre système est très souple. Il y a un directeur qui est aux manettes, qui peut être un médecin,
oui,
qui peut être un administratif, mais de toute façon, le travail ensemble, avec les uns et avec les autres, est indispensable. Parce que sinon, l'efficience n'y est pas, la qualité des soins n'y est pas, et les médecins s'en vont.
Non, mais donc vous avez raison, il y a de l'agilité au sein des hôpitaux. Il y a de l'agilité au sein des hôpitaux, qui gèrent bon an mal an, et qui improvisent, qui s'organisent. Mais il n'y a pas de réflexion globale sur la politique de santé publique.
Oui, et ce qui bloque, c'est, là, pour le coup, c'est le centralisme étatique, ce qui fait qu'il y a 20 000 lits de soins critiques. Imaginez-vous, donc, en fait, l'État a été incapable, et en fait, vous pouvez monter en puissance, transformer des lits de soins critiques en lits de réanimation. Oui. Il y a 5 000 lits de réanimation, mais vous avez 5 800 lits de soins critiques. Ce qu'ont fait les Allemands, par exemple, très bien, c'est géré à l'échelle des régions, c'est qu'ils ont armé, on appelle ça, des lits de soins critiques en lits de soins de réanimation.
D'ailleurs, au demeurant, Olivier Véran, on avait promis, je crois, 12 000 mobilisables à tout moment.
Voilà, on a commandé des, on ne sait pas trop où ils sont. Mais là, on voit bien que l'État, dans sa centralité, est incapable de gérer ce genre d'urgence-là. Donc, il faut quand même en tirer les leçons, parce que ce n'est pas un problème de fond, c'est vraiment un problème de gouvernance. Est-ce qu'il faut transférer aux régions la gestion des grands équipements? Il faut savoir qu'on a transféré les lycées aux régions. Ou est-ce que les ARS, il faut les réorganiser de façon à ce qu'il y ait un contre-pouvoir et ce qui est quand même une réflexion un petit peu plus terre-à-terre, un petit peu plus proche du terrain que la réflexion qui est quand même très technocratique à l'échelle des ARS. Oui, mais il faut en réfléchir de ça, mais il faut avancer.
Alors, il y a aussi une question sur l'organisation de l'hôpital à proprement parler, professeur Perromort. Peut-être un point là-dessus avant de marquer une nouvelle pause. Avant, c'était les chefs de service, donc des médecins qui géraient avec l'administration. Aujourd'hui, c'est l'administration seule dans son coin qui gère les hôpitaux. C'est
exactement
un problème, ça?
Ah oui, c'est un gros problème, puisque les soignants ont perdu le sens de leur métier, en fait. Tout leur tombe de l'administration, des injonctions permanentes, et eux n'ont plus de liberté, n'ont plus d'autonomie. Et donc, moi, je pense qu'on a mis le curseur trop loin du côté des administratifs et qu'il faut rééquilibrer, sans pour autant revenir au pouvoir tout-puissant des mandarins, qui, eux, dépensaient l'argent public et avaient vraiment les pleins pouvoirs. Il faut juste rééquilibrer.
C'est la loi promulguée par Nicolas Sarkozy en 2009. Hein. Les directeurs d'établissements ont désormais la main sur la gestion financière, les projets stratégiques et l'ensemble des nominations. Ça veut dire qu'on a rationalisé l'hôpital comme on rationaliserait une autre administration avec des tableaux Excel, Antoine Perrin. On a perdu de vue un peu le sens du service public.
Alors,
hospitalier.
Que l'hôpital ait eu besoin d'être rationalisé ne me choque pas. Mais par contre, ce qui peut être choquant, c'est jusqu'où on est allé. Et effectivement, on est allé beaucoup trop loin. Et le défaut de lien entre les services administratifs qui pilotent et les médecins est une catastrophe. D'où la nécessité d'avoir des organisations souples et réactives, mais également de la part de l'État et des ARS, d'avoir une relation aux acteurs qui ne soit plus la même qu'aujourd'hui, une relation qui est très descendante. Oui. Avec, vous avez tant de lits, vous avez tel budget, vous avez droit à tel matériel, et vous faites avec ça. Il faudrait une nouvelle forme de contractualisation qui établisse confiance et responsabilité. On ne parle pas de moyens, on parle d'objectifs. C'est-à-dire, vous avez telle population, mettons, 1000 personnes âgées,
oui,
souffrant de telle pathologie sur tel territoire, à vous de jouer, vous avez un budget, mais vous avez la liberté de vous organiser tel que vous le voulez.
Et pourquoi on n'y arrive pas à ça?
Et bien parce que ce n'est pas dans la loi, ce n'est pas dans les règlements, et donc il faut une inversion de la réglementation pour que l'autorité, qui n'est pas en capacité elle-même de savoir ce qu'il faut faire, donne des objectifs au terrain, le terrain lui-même, s'adaptant. Il faut que le terrain puisse s'adapter.
On a du mal en France à décentraliser.
C'est un peu difficile.
On a du mal. Oui. Frédéric Brizard, très court, parce qu'il faut qu'on marque une nouvelle pause.
Ça c'est une réforme tout en gardant le modèle actuel. Moi, je pense qu'il faut changer de modèle. C'est-à-dire qu'il faut véritablement que l'hôpital s'inscrive dans le territoire et il faut revoir les ordonnances de 58 qui ont fait, si vous voulez, emmurer l'hôpital avec un temps plein hospitalier qui fait que quand vous êtes à l'hôpital, vous êtes nulle part ailleurs. Or, les médecins hospitaliers doivent être comme les médecins de ville, des responsables de la population, de la santé de la population, avec des spécificités. Mais donc, moi, je pense véritablement qu'il faut permettre aux médecins hospitaliers d'avoir un temps à l'hôpital. Et puis un temps, c'est aussi l'aspiration des jeunes. Parce que le problème, c'est la perte d'attractivité auprès des jeunes avec une carrière monolithique qui n'est pas vraiment dans ce que souhaitent les jeunes. Or, l'hôpital est plein d'opportunités à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur dans les territoires. Donc,
comment
je pense...
rendre l'hôpital plus efficient et le service de santé français? On en parle juste après la pause avec nos invités. 19h41. 19h42, la suite du débat du Club des Idées. L'hôpital français miné par les lourdeurs administratives. On continue d'en parler avec nos invités à l'aune, évidemment, de cette crise sanitaire qu'on connaît depuis un an. Tiens, je voudrais qu'on prenne un autre exemple symptomatique des décisions parfois ubuesques prises par le ministère de la Santé. Olivier Véran, concernant les vaccinodromes.
Lorsque nous vaccinerons en population générale, certains élus auront peut-être à cœur de mettre à disposition des locaux, non pas des immenses vaccinodromes. Je n'y crois pas. Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination, vous pouvez les appeler vaccinodromes ou mégacentres, quel que soit le nom. Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés pour vacciner massivement les Français.
Voilà, 3 mois d'écart entre les deux extraits. Et évidemment, on a le droit de se tromper, on a le droit de changer de stratégie, mais pourquoi tout de suite dire non? Pourquoi? On a du mal à comprendre, nous les citoyens, Antoine Perrin.
Je pense qu'il y aurait beaucoup plus intérêt à donner encore une fois des objectifs à des acteurs de terrain en leur disant voilà, l'objectif est celui-là, on vous donne tel moyen pour le faire, à vous de le faire.
Pardon, vous avez été au cabinet de la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, dans une situation un peu comme celle-ci. Pourquoi le ministre de la Santé en arrive à dire nous, les vaccinodrones en France, on ne fera pas? Qui lui met ça dans la tête? Pourquoi il prend cette prise de décision et cette annonce?
Écoutez, je ne suis pas à sa place.
Non, mais vous connaissez le fonctionnement. Ce n'est pas lui tout seul qui décide, évidemment. Il est conseillé.
Mais il est conseillé. Il y a d'autres ministères à côté. Il y a la nécessité de... Il y a ce qu'il sait de l'approvisionnement des vaccins, ou pas. Ce qu'il sait de la difficulté avec les élus locaux à mettre en place... les circuits pour approvisionner, pour acheminer les vaccins, dont certains doivent être à moins 80 degrés.
Mais vous comprenez ma
etc.
question. Ma question, c'est un peu malicieuse. Est-ce que derrière, il y a une administration qui se met en marche pour le convaincre qu'il ne faut pas le faire avant que le pragmatisme le rattrape et qu'il dise bah, « si, on va y aller, bien sûr ».
Non, très honnêtement, je ne pense pas. Je pense quand même que la situation est très complexe. Je vous ai parlé des 5 forces que je vois sur l'hôpital. Il y en a d'autres qui exercent au niveau des décisions. Et je comprends qu'il puisse y avoir des difficultés à tout organiser et à tout décliner. Par contre, peut-être qu'à certains moments, il faut mieux être discret plutôt que donner des affirmations trop fortes.
Parce que ça s'est produit sur les masques, ça s'est produit sur les vaccinodromes et ça s'est produit encore il y a quelques jours sur les autotests. Cela fait un mois que les Allemands ont autorisé les autotests. Il s'agit d'un prélèvement dans la narine, moins profond qu'un test classique à mélanger pendant une minute dans un liquide. On avait dit, on va y aller massivement, y compris dans les supermarchés. Si bien que Carrefour en a acheté 1 million avant que 2 jours plus tard, on fasse machine arrière, marche arrière, et qu'on nous dise finalement ce sera que dans les pharmacies parce que c'est compliqué, et pas avant plusieurs semaines. Professeur Michael Perromore, qu'est-ce que ça vous inspire ça?
Je crois même que les autotests, il y avait un décret de juillet 2020 qui les interdisait à la distribution. Donc c'est pour dire jusqu'où ça va. Non, je crois que... Alors là, il s'en est expliqué récemment. Il a dit que certains autotests ne marchaient pas ou n'étaient pas fiables. Et je crois quand même qu'il y a le poids du principe de précaution en France qui est sans doute plus marqué qu'ailleurs. Oui. On veut que tout soit parfaitement étudié, analysé.
Parce qu'en Allemagne, ils le font depuis longtemps. Hein.
Bien sûr, bien sûr. Mais nous, on a quand même la culture de la prudence et le principe de précaution qui est poussé à l'extrême et la judiciarisation de l'action politique.
Qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution en France.
Exactement.
Oui.
En Europe.
Frédéric Bizard.
D'abord, il faut savoir que la santé en France a un poids politique absolument négligeable. C'est toujours le dernier roue de la carrosse de tous les débats publics. Et si vous prenez M. Véran aujourd'hui, mais c'était le cas des autres ministres avant, il est numéro 14 dans la hiérarchie. Et je veux autant dire qu'en termes de poids politique, il ne compte pas beaucoup dans la gestion de cette crise sanitaire.
Y compris dans les forces vives de son ministère. Parce que autant la santé est suradministrée, mais le ministère de la Santé n'affiche que 7450 équivalents temps plein, c'est moins par exemple que le ministère de la Culture, si bien que certains se disent, est-ce qu'il aurait fallu confier au ministère de la Santé la gestion de la plus grave crise qu'ait connue notre pays depuis des décennies ?
Le problème, c'est que ce ministère n'a pas l'habitude de penser. Il n'y a pas de pensée politique dans ce ministère. Et d'ailleurs, on le voit avec la vaccination, vous n'avez pas de stratégie de vaccination. D'accord ? On avance avec des communications où on essaie de s'adapter en fonction de la situation. On se prend les pieds dans le tapis. Pourquoi est-ce qu'en effet, il y a trois mois, il ne fallait pas de vaccinodrome ? Parce que d'abord, il n'y avait pas les doses et il fallait mieux mettre en avant d'abord les professionnels de santé qui pouvaient vacciner. Pourquoi aujourd'hui, c'est un risque, les vaccinodromes ? Ce n'est pas une question d'être pour ou d'être contre. C'est qu'il faut utiliser, à mon avis en tout cas, les force de notre système de santé, ceux qui inspirent confiance aux citoyens, qui sont les professionnels de santé. Les vaccinodromes ne peuvent venir que dans un deuxième temps, quand on a véritablement trop de doses pour que ces doses-là, à mon avis en tout cas, soient administrées par les professionnels de santé. Donc là, on prend un risque. Pourquoi est-ce qu'on prend ce risque ? Parce que s'il y a un effet de communication, il faut montrer qu'on va accélérer, puisque ça ne vous a pas échappé, tous les 15 jours, on est en train d'accélérer.
Bien. Antoine Perrin, est-ce qu'on peut, parce qu'on arrive à la fin de ce débat, est-ce qu'on peut quand même... D'abord, je voudrais tirer mon chapeau aux soignants, aux médecins, aux réanimateurs, à tout le personnel soignant qui fait, rappelons-le, un boulot absolument formidable, indépendamment de ces contingences administratives qui, chacun dans leur coin, font un boulot admirable pour soigner les Français et sauver les Français dans cette épidémie dramatique. Mais y a-t-il, Antoine Perrin, un moyen de rationaliser tout ça et de le rendre plus efficace ?
Rationaliser, certainement, et d'ailleurs ça a déjà été fait largement. Il faut aussi tenir compte d'une réalité par rapport à la vaccination. Nous sommes le pays du sang contaminé. Nous sommes le pays de l'encéphalie spongiforme. Nous sommes le pays du débat sur la sclérose en plaques, sur le vaccin de l'hépatite. Tous ces débats-là ont amené à ce qu'il y ait une énorme crainte par rapport aux vaccinations. On avait fait une enquête, nous, auprès de nos salariés soignants donc, juste au moment où on lançait la vaccination. On avait noté que seuls 19% de nos salariés étaient prêts à se faire vacciner. Les soignants. Alors, ce chiffre évolue, mais la population globale est dans une crainte, ce qui fait qu'il est difficile de communiquer sur la vaccination.
Il y a la peur du risque judiciaire dans toutes les strates de l'administration, en quelque sorte, c'est ce que vous voulez dire. Parce que c'est vrai que j'ai sous les yeux, j'étais en train de regarder pendant que vous parlez, toutes les agences qui ont été créées au fil des scandales sanitaires. L'Agence française du sang, 92, l'Agence du médicament, 93, l'Institut de veille sanitaire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, 98, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, 2002, après l'amiante. À chaque fois, une nouvelle agence.
Et elles sont où
pendant cette crise ? C'est la stratégie du parapluie, ça ?
Mais elles sont où, ces agences, dans la crise sanitaire ? Vous avez entendu du Haut Conseil de Santé publique prendre une décision un peu structurante. Vous avez entendu de la Haute Autorité de Santé, qu'on entend un petit peu pour ceux qui connaissent un peu. Mais globalement, c'est bien que la décision ne se prend pas là. Donc, elles n'ont strictement aucun pouvoir. Donc, il y a eu une espèce d'atomicisation du pouvoir médical. Mais le seul problème de ça, c'est que d'abord, elles se font souvent concurrence. Si vous prenez juste la Haute Autorité de Santé, le Haut Conseil de Santé publique, le Haut Conseil de Santé publique est censé éclairer sur l'évolution de la santé publique. La Haute Autorité de Santé sur l'évolution sur les produits de santé, mais aussi sur l'évolution de la stratégie. Et puis, vous avez le Haut Conseil de l'avenir de l'assurance maladie. Voilà trois conseils qui sont séparés, qui ne se parlent pas, mais qui ont en fait des missions qui convergent. Oui. Donc, on voit bien que là aussi, on parlait de rationalisation, il est urgent de rationaliser bien. Tout ça.
Pour terminer, professeur Michael Perromort, redonnons au directeur d'établissement, au médecin, au chef de service, une forme d'autonomie. C'est ça la solution ?
Moi, je crois que les établissements de santé, hôpitaux, cliniques, devraient être autonomes et qu'au sein des établissements de santé, les services médicaux devraient être autonome. Ce qui ne veut pas dire qu'on ferait n'importe quoi, mais au moins qu'on ait un budget pour recruter des secrétaires, des infirmières, acheter une partie du matériel, qu'on ait le sentiment d'appartenance à une équipe, tout simplement.
Bien.
Tout le monde est d'accord avec ça, sauf l'administration.
On espère que le message sera entendu. Merci en tout cas, débat absolument passionnant. Merci à tous les trois.
Europe 1, Julien Bugier.